Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info, c'est avec Agnès Bonfillon jusqu'à 13h, justement. Bonjour, Agnès.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. À la une, fin de cavale pour le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne à Paris. Il a été interpellé dans le Var après avoir signalé sa présence au domicile de son père. Bien évidemment, nous consacrerons une grande partie de ce journal à la situation en Ukraine. Après la reconnaissance des républiques séparatistes pro-russes par Vladimir Poutine, la tension monte encore d'un cran sur le terrain. Les Occidentaux doivent annoncer leur première sanction cet après-midi. Marine Le Pen suspend sa campagne. La présidente du Rassemblement national ne la reprendra qu'à l'obtention des 500 parrainages. Et puis du foot ce soir, en huitième de finale de la Ligue des Champions, Lille va devoir frapper très très fort à Chelsea.
Nos deux sujets du jour, pour bien comprendre le conflit en Ukraine, nous allons revenir sur ce qu'il faut connaître, les bases qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis un écran qui s'allume, c'est un enfant qui s'éteint. De nombreux professionnels alertent sur la dangerosité des téléphones, tablettes et autres télévisions. Une proposition de loi arrive à l'Assemblée sur ce sujet.
La question du jour sur RTL.fr, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous sentez-vous concerné ? Vous dites oui à 33%, non à 59%. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Moins agité hein, au nord aujourd'hui ?
Oui, beaucoup moins, même si ça souffle encore hein, sur les côtes de la Manche, mais beaucoup moins fort, jusqu'à 70-80 km/h en rafale. On a une perturbation peu active qui touche la moitié nord du pays avec quelques faibles pluies cet après-midi et dans le sud, entre l'Aquitaine, la Méditerranée et les Alpes. C'est un temps sec et plus ensoleillé avec toujours Mistral et Tramontane. Le tout sous des températures encore très douces, de 8 à 14 degrés au nord et de 14 à 18 au sud.
Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure. 13h pour une météo complète.
RTL Midi.
Cela faisait plus de 3 semaines qu'il était recherché. Le policier suspecté d'avoir tué sa compagne à Paris en janvier a été interpellé ce matin dans le sud de la France, dans le Var précisément. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
C'est lui qui a prévenu les gendarmes.
Oui, un coup de téléphone à 9h45 ce matin. Arnaud Bonnefoy explique qu'il se trouve au domicile de son père à Montmeillan dans le Var. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place, interpellent le policier qui n'oppose aucune résistance. Il est désormais placé en garde à vue. Une équipe du 2e district de police judiciaire de Paris est en route vers le sud de la France pour l'interroger évidemment sur son rôle dans le décès d'Amanda Glin, sa compagne de 28 ans retrouvée morte à son domicile le 28 janvier dernier. Et les enquêteurs de la PJ vont également chercher à comprendre ce qu'a pu faire le policier durant ces 25 jours de cavale. Son véhicule et son arme de service ont été retrouvés abandonnés à Amiens il y a 10 jours. Arnaud Bonnefoy a également retiré 1 500 €. Comment s'est-il rendu dans le sud ? A-t-il été aidé ? Voici les questions que se posent actuellement les enquêteurs parisiens.
Merci beaucoup pour ces informations, Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. L'autre grand titre de l'actualité, ce sont les conséquences des mots de Vladimir Poutine. Hier soir, en reconnaissant les républiques séparatistes dans l'est de l'Ukraine, et bien Moscou ouvre une nouvelle étape dans ce conflit. Sur le terrain, des mouvements de population ont lieu, l'armée russe est de plus en plus active. Emmanuel Michel, vous vous trouvez à la frontière russe avec le Donbass. Vous avez réussi à prendre contact avec les habitants de Donetsk.
Ici, à la frontière entre la Russie et le Donbass, les mouvements de l'armée russe sont visibles. Nous avons croisé des convois de l'armée, des hélicoptères de combat traversaient la zone hier et ce matin, sous un ciel nuageux, retentissait le son des avions de chasse. Comme nous sommes empêchés de passer la frontière, nous travaillons avec un journaliste local. Il a réalisé l'interview de ce militaire séparatiste hier soir, après les annonces du Kremlin.
Aujourd'hui, dans le Donbass, on décide du destin, non seulement du Donbass, mais aussi de l'Ukraine. Ici, on ancre le destin d'une grande Russie, de la patrie qu'on avait perdue dans les années 90 avec la fin de l'Union soviétique.
En attendant, les civils continuent de fuir la zone. À la frontière, femmes, enfants et personnes âgées ne cessent d'affluer. Eux ont peur, ils fuient la guerre, les larmes aux yeux. déchirés de devoir encore et encore se mettre à l'abri loin de chez eux.
Le reportage d'Emmanuel Michel, notre confrère d'M6.
Peut-on dire que la guerre est proche ?
Par exemple, où se trouvent les troupes russes à l'heure où nous parlons ? Ont-elles bougé depuis hier, Julien Fautra ?
Eh bien, les chars russes sont, oui, entrés dans le Donbass et, me confirme une source militaire, ont violé cette nuit l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'aide de blindés, unités d'infanterie, missiles balistiques, tout l'éventail terrestre, aérien et même maritime pour une guerre éclair. Des chars sans marquage t'important une façon de brouiller les pistes, de créer de l'incertitude selon le même mode opératoire que lors de l'annexion de la Crimée 2014. Vladimir Poutine déjà est le brouillard de la guerre. C'est comme ça qu'un militaire qualifie le mode opératoire russe.
Et où s'arrêteront ces chars, Julien ?
Je sais pas, puisque les frontières de Donetsk et Louhansk, ces régions convoitées, sont floues. Il y a les frontières séparatistes actuelles et puis celles administratives plus larges, car des parties de Donetsk et Louhansk sont contrôlés par l'armée ukrainienne. Et pour s'étendre, les Russes devront mener une guerre à haute intensité. C'est inévitable. Armée contre armée, armée ukrainienne contre armée russe.
Alors les Occidentaux ont prévenu, il y aura sanctions contre la Russie.
Ouais, il faut frapper fort au portefeuille via le gaz. Le gazoduc Nord Stream 2 ne démarrera pas, annonce l'Allemagne, via les réseaux de transactions financières aussi, via les intérêts russes dans les capitales européennes. Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne.
On va faire ça d'une façon coordonnée, mais il faut agir vite. Et vite, ça veut dire cet après-midi, ici, à Paris.
Aujourd'hui, à Paris, donc, Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian pour la France annoncent des sanctions ciblées, sanctions qui devraient concorder avec celles que prendront les Américains, attendues également dans les heures qui viennent.
Julien Fautra du service étranger de RTL. Merci Julien. La crise actuelle a des conséquences sur les marchés financiers. Les places européennes évoluent à la baisse depuis ce matin. La Bourse de Paris, par exemple, a perdu plus de 1% et celle de Francfort 1,61%.
Une guerre aux portes de l'Europe, quelles conséquences sur la politique française en pleine campagne électorale ?
En tout cas, pour l'Union nationale, visiblement, il va falloir attendre, Marie-Bénédicte Allaire.
Bah oui, d'abord parce qu'il y a des divergences de fond sur la relation que la France doit entretenir avec la Russie et les États-Unis. Et puis ensuite, si près de la présidentielle, pas question pour ses adversaires de donner quitus à Emmanuel Macron. Ce matin, sur notre antenne, sur RTL, Marine Le Pen l'a accusé d'avoir cherché à se mettre en avant. Valérie Pécresse critique, elle, une diplomatie solitaire et arrogante du président sortant et elle prône la fermeté vis-à-vis de Vladimir Poutine. Elle se démarque ainsi de Marine Le Pen ou Éric Zemmour pour qui des sanctions ne serviront à rien. Jean-Luc Mélenchon renvoie dos à dos Russie et États-Unis et surtout, il estime navrant le bilan d'Emmanuel Macron. Le président sortant à qui François Hollande décerne pour une fois un satisfecit, il a eu raison de dialoguer avec Vladimir Poutine, mais il ajoute, il ne faut jamais penser qu'on va le séduire, le coup de griffe n'est pas très loin.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation. Sachez que ce soir à 18h15, l'ambassadeur d'Ukraine en France sera l'invité exceptionnel de Marion Calais dans RTL Soir.
Il reste 7 jours ouvrables.
Alors, venons-en à la campagne présidentielle. Vous l'avez entendu, Marine Le Pen, elle, met son agenda sur pause. Vous l'avez entendu parce qu'elle était l'invitée des petits déjeuners de campagne sur RTL ce matin. On l'a appris il y a un petit peu plus d'une heure. La présidente du Rassemblement national décide de suspendre sa campagne et elle ne la reprendra qu'à l'obtention des parrainages. Elle n'a toujours pas les 500 signatures requises.
Il reste 7 jours ouvrables. Il manque un tout petit peu plus d'une quarantaine, ce qui est énorme. Je suis extrêmement inquiète et je ne suis pas la seule. On est à 50 jours de l'élection présidentielle. Je suis obligée d'arrêter ma campagne pour me consacrer exclusivement à cette recherche de parrainage. Donc c'est terrible. J'étais au second tour de l'élection présidentielle la dernière fois. Je suis donnée aujourd'hui au second tour de celle-ci et je ne pourrai pas me présenter parce que ce document administratif a été en réalité détourné de son sens premier pour servir d'armes politiques contre ceux qui dérangent. C'est effectivement terrifiant.
Et je vous rappelle, puisque l'on parle politique, cette information RTL signée William Galibert. Emmanuel Macron annoncera sa candidature la semaine prochaine autour du 3 mars. Il se lancera ensuite dans une campagne éclair avec très peu de grands meetings mais un maximum de déplacements sur le terrain. À Rouen, dans la Loire, une femme de 88 ans est morte hier soir dans l'incendie de son appartement. Elle vivait avec son époux dans une résidence pour personnes âgées. Son mari a été transporté dans un état grave à Lyon. Son pronostic vital est toujours engagé.
Plusieurs centaines de tracteurs se trouvent actuellement devant la préfecture à Lille.
Oui, ils arrivent de tous les Hauts-de-France, ces agriculteurs, ces éleveurs, pour le répéter une nouvelle fois. Les conditions ne sont plus tenables pour leur profession, Franck Hanson.
Oui, une impressionnante démonstration de force ici de ces exploitants. Un cortège de 500 tracteurs arrivés, vous l'avez dit, de Dunkerque, la Vénois ou la Picardie. Sur cette place de la préfecture de Lille, ces agriculteurs inquiets mais dans le calme ont symboliquement déposé leurs bottes et leurs combinaisons. Olivier Fagot est éleveur de porc dans les Flandres.
On en a plein les bottes. On aime notre territoire. Mais aujourd'hui, on est écrasé par les charges, forcément. Il ne faut pas avoir peur de maintenir une souveraineté alimentaire et une agriculture durable. Et il faudrait qu'aussi la distribution applique aussi la loi.
Et parmi les filières en crise, l'endive, le chicon, comme on dit dans le Nord, un produit emblématique de la région. Les producteurs comme Claire Messéan à Péronne ont l'impression de travailler à perte.
Les prix sont pas là. En plus, c'est quand même un légume qui est super bon, qui est hyper facile à préparer. On s'attend que la ménagère, elle consomme de l'endive. Là, les coûts de production sont complètement indécents. Notre prix de vente s'est effondré de 33%. Et plus 300% d'électricité, plus 30 à 40% d'emballage. Là, nos exploitations sont clairement... la pérennité est remise en cause complètement.
Des paysans qui en ont assez, disent-ils, de toutes ces promesses des candidats politiques. Après leur pique-nique sur place, une délégation va être reçue par le préfet du Nord.
Le reportage de Franck Hanson à Lille pour RTL.
Du foot précisément à Lille encore, avec les Lillois qui sont condamnés à l'exploit.
Ah ben oui, pas le choix. En huitième de finale de la Ligue des Champions, le LOSC va devoir briller sur la pelouse de Chelsea. Tenant du titre, les supporters, eux, vont devoir aussi tout donner, Samuel Duhamel.
Oui, si les joueurs lillois devraient avoir du mal à rivaliser avec leur adversaire champion d'Europe, il en sera probablement de même pour les supporters. Seuls 1500 fans du LOSC assisteront à la rencontre contre 39 000 Anglais. David, supporter lillois depuis 40 ans, ne se fait pas trop d'illusions.
Il faut être réaliste, ça sera vraiment très très dur, mais il faudrait sortir avec les honneurs. Et si jamais on se fait éliminer, il faudrait quand même pas se prendre une valise.
D'autres sont beaucoup plus confiants. C'est le cas de Jean-Christophe qui rêve d'un exploit à Stamford Bridge.
Il faut jouer le match, il ne faut pas avoir peur. Les joueurs sont aguerris maintenant sur ces matchs de Coupe d'Europe. On peut le faire.
Des supporters lillois, il y en a aussi en Angleterre. Marie Billon, notre correspondante à Londres, a rencontré Hugo et Jérémy qui ne sont plutôt pas d'accord quant à la physionomie de la rencontre.
Non, ça va être compliqué. Je pense qu'à Stamford Bridge, c'est un peu compliqué. Je verrais bien un 3-1 par exemple pour Chelsea.
Ça reste, comme on dit, un match aller-retour. C'est pas un championnat, donc on y croit toujours.
Y croire toujours et donner de la voix, un impératif pour obtenir un résultat positif à Stamford Bridge.
Samuel Duhamel, l'envoyé spécial de RTL à Londres. Un match à suivre en direct sur notre antenne RTL Foot ce soir à partir de 20h45.
Une pause et dans un instant...
J'ai une petite question avant.
Ah bon ?
Bah oui, Pascal, quelle est la particularité de la date du jour ?
Ah oui,
le 22-02-2022, on peut la lire dans les deux sens, on appelle ça un palindrome.
Exactement.
Et c'est très rare, figurez-vous. Donc peut-être un moment.
C'était quand la dernière fois?
Très particulier. Alors je ne sais, moi j'ai calculé la prochaine.
Oui, c'est que.
Ce sera le 30-03-3003.
Ah oui, effectivement. Donc,
je pense
a priori,
qu'on y sera pas.
On sera en retard.
Voilà. Oui. Donc c'est très rare un palindrome et peut-être un moment particulier, comme l'explique la numérologue Evelyne Leneuf.
Pour certains, c'est un jour de chance, car lorsque l'on additionne tous les chiffres qui composent cette date du 22-2022, cela donne 12, donc 1 plus 2 égale 3, ce qui signifie l'optimisme et aussi l'adaptabilité. On peut jouer au loto, à la loterie ou à l'euro-million, puisqu'il est assimilé au divertissement et au jeu. Mais rappelons avant tout que le 2, il représente l'harmonie. Alors pour cette date fatidique, il y a 6 fois le chiffre 2, censé rapprocher les êtres. Voilà, en quelque sorte, ce chiffre de la date du 22-2022.
C'est plutôt pas mal.
Alors, la dernière fois, a priori, le 11 janvier 2011...
On n'y était pas
2011.
Non plus. Oui.
Non, c'était a priori un palindrome. Et ce qu'il y en a eu entre-temps, je ne peux pas vous dire. Il est 12h43. Pour bien comprendre un conflit, le conflit en Ukraine, nous allons revenir sur ce qu'il faut connaître et des bases qui ne sont pas toujours évidentes. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
J'estime qu'il est indispensable de prendre cette décision mûrie depuis longtemps, de reconnaître sans délai la souveraineté et l'indépendance des deux républiques populaires du Donbass. Et nous exigeons aussi que ceux qui ont pris et conservent le pouvoir à Kiev cessent immédiatement toute activité de combat. Sinon, la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera entièrement sur les épaules du régime ukrainien.
Vladimir Poutine, donc, hier, devant les Russes, qui annoncent donc la reconnaissance et l'indépendance des républiques pro-russes de l'Ukraine. Évidemment, cela a provoqué de nombreuses réactions. Et sur le terrain également, on l'a entendu avec nos envoyés spéciaux. Pour essayer de comprendre un petit peu ce conflit, il faut peut-être reprendre les bases. On ne connaît pas forcément tout ce qu'il faut savoir dans cette crise ukrainienne. Bonjour Bénédicte Tassin.
Bonjour, bonjour à tous.
La chef du service étranger de RTL avec nous. Alors d'abord, question très simple, qu'est-ce que le Donbass ?
Alors le Donbass, c'est cette région de l'Ukraine tout à l'est du pays, donc avec une frontière avec la Russie. Avant la guerre de 2014, le Donbass était la région la plus peuplée d'Ukraine, si on accepte bien sûr la capitale Kiev. Mais vous trouvez dans le Donbass de grosses villes, Louhansk, Mariupol. C'est un bassin minier métallurgique important. Le Donbass est divisé administrativement en deux provinces, de Donetsk et de Louhansk.
On parle donc de ces deux provinces, c'est de ces deux provinces dont parlait Vladimir Poutine à l'instant. Et qui s'y trouve dans ces deux provinces ?
Alors, beaucoup d'habitants du Donbass ont fui après la guerre de 2014 pour se réfugier dans le reste de l'Ukraine. On trouve donc aujourd'hui soit une population qui reste, qui ne dit rien, assez passive, soit des pro-russes. Et les pro-russes, ils sont nombreux dans le Donbass. Ce sont souvent des descendants de nombreux travailleurs russes qui avaient été envoyés par Moscou après la Seconde Guerre mondiale, par donc le régime soviétique. Pas mal de passeports russes aussi ont été distribués dans la région par Moscou à des dizaines de milliers d'habitants. Et des hommes d'affaires russes, les Ukrainiens, les hommes d'affaires ukrainiens se sortiraient, mais on trouve des hommes d'affaires russes. Le Donbass, il reste ukrainien. En 1991, on le rappelle, les électeurs du Donbass, entre autres, de l'Ukraine en général, mais du Donbass, entre autres, ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine.
Ils sont russophones, tous ces habitants ? Quand les pro-russes, ça veut dire russophones
ou non,
pas forcément
pas, mais beaucoup de russophones, beaucoup bien sûr. Beaucoup ont leur famille qui est originaire de Russie.
Alors, beaucoup de gens se demandent évidemment si la voie diplomatique est encore ouverte.
Alors, déjà, hier soir, vous avez un gros coup donné aux accords de Minsk. Ces derniers ont été carrément enterrés par Moscou hier soir, par Vladimir Poutine. Dans cette mise en scène au Kremlin, vous l'avez vu, Vladimir Poutine devant les dignitaires russes qui a enterré donc carrément en deux secondes tout ce qui avait été bâti par ces accords de Minsk.
Mais est-ce qu'il peut négocier, est-ce qu'il veut négocier ou est-ce qu'il n'entend qu'une chose, c'est la force?
Si on le savait, Pascal, hier soir, on
a le sentiment qu'il ne veut pas négocier. On a le sentiment que Poutine ne comprend qu'une chose, la force militaire. Donc tant que l'Amérique n'aura pas envoyé des troupes sur le terrain pour faire peur à M. Poutine, il annexera pour retrouver ce qu'était la Grande Russie. Voilà le sentiment qu'on a.
Ça, c'est votre sentiment. En tout cas, les États-Unis n'enverront jamais de troupes. Les États-Unis ne veulent pas entrer dans une guerre mondiale, ça Biden l'a dit.
Donc il va annexer.
Non, parce que ce qui peut arriver, c'est les troupes de l'OTAN, mais pas des soldats sous bannière américaine, mais les troupes de l'OTAN. Ça serait une intervention militaire. Après, il y a peut-être encore des voies diplomatiques.
Et on a la réponse à ça. Est-ce que l'OTAN va intervenir militairement?
À
votre avis.
Ils sont en train de discuter. Mon avis n'importe pas, je vous l'ai déjà
dit. Votre expertise.
Mais en tout cas, c'est
Est-ce que l'Europe va intervenir? Est-ce que l'OTAN va intervenir? Est-ce que l'Amérique va intervenir? Vous dites l'Amérique, non.
L'Amérique, non. Sous bannière étoilée, non.
Bon. L'Europe?
Non.
Donc l'OTAN. Ça ne peut être que l'OTAN.
L'OTAN.
Et les forces militaires en présence, justement, Bénédicte, sur place
Les forces militaires en présence, alors bon, il y a 190 000 soldats russes qui étaient massés à la frontière, sans compter les Biélorusses, sur lesquels peuvent compter Poutine, sans compter donc les séparatistes russes, donc à l'intérieur du Donbass, qui sont souvent des locaux entraînés par des instructeurs venus de Moscou. Les renseignements américains ont annoncé, je vous le rappelle, dans une missive envoyée à l'ONU, l'existence de listes d'Ukrainiens à tuer ou à envoyer dans des camps. Et lundi dernier, le conseiller américain à la sécurité nationale de Joe Biden mettait en garde contre cette invasion russe qui chercherait à écraser et à réprimer violemment le peuple ukrainien. La question maintenant, c'est est-ce que les troupes russes vont se contenter de rester dans le Donbass ou vont-elles aller jusqu'à la capitale, jusqu'à Kiev? C'est la question et ça on ne sait pas. 130 000 à 150 000 soldats ukrainiens de l'autre côté. Une armée qui est en train de se consolider. Elle était très faible à la fin des années 90 quand l'Ukraine s'est démilitarisée. Ça se consolide.
J'ai entendu ces dernières heures, il veut reconstituer la Grande Russie. J'entendais parfois aussi l'URSS. Mais la Grande Russie ou l'URSS, ça veut dire quoi? C'est les pays baltes également?
Ah ben, alors là, les pays baltes, on serait dans une guerre mondiale, vraiment, hein, si on commençait à y aller jusque-là. Je pense que déjà, si là, le Donbass, il a eu la Crimée. Vous vous souvenez, en 2014, la Crimée a été annexée. Et il a organisé un, entre guillemets, référendum, et il a annexé la Crimée. Déjà, s'il a le Donbass, ça serait déjà aussi énorme. Après, aller jusqu'aux États baltes. Ce qu'il ne veut absolument pas, c'est que les États baltes, enfin, que l'OTAN s'élargisse. L'OTAN, c'est déjà 30 pays. Il ne veut pas que les pays frontaliers à la Russie appartiennent à l'OTAN.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir la réponse, alors en l'occurrence de l'OTAN. La négociation, on comprend qu'avec Poutine, c'est toujours compliqué.
Très compliqué, vous l'avez
vu. Qu'il ne comprend qu'une chose, c'est le rapport de force. Oui. Et que ce rapport de force ne peut s'exercer que par une présence militaire, si je veux synthétiser. Donc, si l'OTAN
n'intervient pas, il continuera
d'annexer comme d'autres l'ont fait.
Ah ben bien sûr.
Merci beaucoup, Bénédicte Tassard, la chef du service étranger de RTL.
De cet éclairage. Il est 12h52. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon et Pascal Pro.
C'est tellement compliqué pour les parents, parce qu'on vit tous les jours avec nos écrans, qu'il faut le marteler vraiment. C'est toxique pour les enfants. C'est comme une cigarette. On n'allume plus une cigarette sous le nez d'un bébé, ben on n'allume plus un écran sous le nez d'un bébé.
Ce matin, la psychologue Anne Lukamba était l'invitée des petits matins de RTL. Elle a eu des mots très forts pour alerter sur le danger des écrans pour les tout-petits. Une proposition de loi est déposée aujourd'hui sur le sujet pour une meilleure prévention de la surexposition des enfants aux écrans. Une proposition dont vous êtes l'auteur, Caroline Janvier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes députée LREM. Il y a urgence?
Oui, il y a urgence pour deux raisons. D'une part, parce que le temps d'exposition aux écrans des enfants augmente. À 2 ans, c'est 1 heure par jour. Entre 3 et 10, c'est 2 heures par jour d'écran. Et d'autre part, parce que l'on connaît maintenant très bien les effets de ces écrans sur le langage. Apparition de troubles primaires du langage, et on sait que le langage conditionne les apprentissages scolaires, le développement cognitif, et il y a également des effets sur l'alimentation, ça multiplie les risques d'obésité, mais aussi sur le sommeil. Une exposition trop importante aux écrans diminue à la fois la qualité et la quantité de sommeil. Donc oui, il y a urgence à agir pour protéger nos enfants.
Vous avez lancé une grande consultation, Caroline Janvier, avant cette proposition de loi, via une plateforme pour recueillir l'avis des Français. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que les gens vous ont dit?
Eh bien, ce qui m'a surprise, c'est qu'en réalité, les propositions, les contributions sur cette plateforme sont très radicales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des parents, mais aussi des enseignants, des professionnels en contact avec les enfants. Et beaucoup de propositions très radicales. Carrément, certains voudraient interdire les écrans à l'école ou installer, par exemple, des brouilleurs. Moi, ce que je propose, c'est plutôt de réguler l'usage des écrans, de sensibiliser les parents et puis de former les professionnels, que ce soit des professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles, les péricultrices et aussi les enseignants sur le bon usage des écrans finalement.
Je suis d'accord avec vous, mais quand vous dites sensibiliser les parents, ça passe quand même par là. C'est quand même les parents qui éduquent les enfants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une loi pour que les parents ne proposent pas un écran à leur enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On va tous parfois dans des restaurants et on est frappé de voir un petit gosse de 1 an, 2 ans et les parents lui ont mis un écran devant pour qu'il soit calme. Il est parfois dans sa poussette. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ce type de comportement?
Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un enjeu social sur cette question-là. Parce que certains parents connaissent bien les risques. On connaît tous
bien
les exemples des cadres de la
Silicon Valley pour avoir la paix,
qui
ils font ça.
Enfants.
Oui, c'est ça, mais la vérité.
Quand ils feront un lien entre, par exemple, eh bien, des résultats scolaires qui sont mauvais, ça, les enseignants, vous le disent, les enseignants savent repérer le matin qui a regardé un écran en prenant son petit-déjeuner et qui ne l'a pas fait. Donc, quand ils connaîtront mieux ces risques-là, d'une part, c'est comme toutes les politiques de santé publique, tout ce qu'on fait en matière d'addiction, sur la question du sport, sur toutes ces choses-là, l'État, sa responsabilité, c'est d'informer, c'est de sensibiliser, c'est de financer des campagnes de prévention, de la même façon que pour le tabagisme. On ne peut pas interdire la consommation de tabac. En revanche, il faut que chaque chacun soit conscient des risques.
C'est aux parents d'être responsables, c'est évidemment aux parents de faire attention et de supprimer les écrans.
Et pour le tabagisme,
oui, mais
pardon,
encore faut-il qu'ils aient l'information.
En augmentant le paquet de cigarettes à 10 euros, ça a eu un véritable impact et une véritable conséquence sur le comportement des adultes. Là, effectivement, vous voulez sensibiliser les parents, leur dire attention, ce n'est pas bon pour les enfants. Est-ce que c'est suffisant ?
Alors, pas uniquement. Donc, je veux sensibiliser les parents, mais encore une fois, tout le monde, c'est-à-dire avec aussi des messages de prévention sur les emballages de l'ensemble des écrans, hein, tablettes, ordinateurs, télévision, et mettre aussi en place des réunions d'information à destination des parents. Donc, oui, après, évidemment, chacun est libre d'éduquer son enfant comme il le souhaite, mais de la même façon qu'on met des messages de prévention sur le tabac, sur les paquets de tabac, mais aussi, par exemple, sur l'alimentation. Vous voyez tous les petits bandeaux qu'on a sur les publicités pour les aliments gras, salés, sucrés, ça fonctionne, c'est-à-dire que ça ne limite pas complètement, mais ça réduit les risques et ça favorise des attitudes, des comportements qui sont plus responsables sur le plan alimentaire.
Il y a une légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les grands dirigeants des GAFA interdisent à leurs enfants d'apprendre sur les écrans, on disait ça, d'Apple notamment. Alors c'est invérifiable, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus.
En tout cas, oui, il y a des déclarations d'un certain nombre de dirigeants de ces GAFA qui disent eux-mêmes qu'effectivement qu'ils ne mettront pas leurs enfants dans des établissements qui utilisent des écrans, qu'ils interdiront à leurs enfants d'utiliser, certains ont même utilisé le mot de cette merde en parlant du réseau social Facebook. Donc oui, et ce sont quelque part les plus au fait de ces risques-là. Et donc il y a la question de l'information, mais il y a aussi la question de la régulation de l'usage des écrans. Est-ce que vous trouvez normal que dans une halte garderie, que chez une assistante maternelle, que sur les lieux de garderie en périscolaire pendant la pause méridienne, il y ait des enfants, donc chez l'assistante maternelle, ça peut être des nourrissons de quelques mois, qui passent leur journée devant leurs écrans. Et ces professionnels-là peuvent être contrôlés sur tout un tas d'autres sujets, hein, le respect des normes d'hygiène de sécurité, sont formés notamment par les RAM, les relais d'assistante maternelle, sur tout un tas de risques. En revanche, il ne se passe rien sur la question des écrans. Donc, ce que je voudrais construire, c'est une politique globale. C'est pas uniquement de sensibiliser les parents, c'est vraiment de réguler l'usage des écrans, de former les professionnels et d'inclure ça dans tous les schémas et les campagnes en matière de santé publique.
Merci beaucoup Caroline Janvier d'avoir été avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette proposition de loi déposée aujourd'hui à l'Assemblée pour une meilleure prévention de la surexposition des enfants aux écrans. Merci.
Et ça, c'est un sujet qui fera réagir nos auditeurs parce que vous êtes peut-être parents et vous êtes confrontés à cette réalité. Comment faites-vous ? À tout de suite.
RTL Midi.